Le journal Bruno Duvic, bonjour.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, la réforme des retraites, le match commence. Première grève massive à la RATP et cette scène qui est la scène du jour. Le ministre face aux manifestants dans le quartier de Bercy, nous l'entendrons. Avec Fabien Cazot, zoom et détail sur ce régime spécial à la RATP. Et reportage sur les Parisiens qui s'organisent, embouteillage de trottinettes et vélos électriques. La crise économique prend encore de l'ampleur en Argentine. Des centaines de personnes depuis mercredi autour du Parlement de Buenos Aires. Elles appellent à l'aide.
On essaye de lutter. On a juste besoin de travail ici en Argentine, c'est tout. On crève de faim. Si on n'a pas de travail, on ne peut pas manger, mais toutes les usines ferment. Aujourd'hui, je dois penser à payer la bonbonne de gaz. Demain, je dois mettre de côté pour manger. C'est désespérant.
Reportage complet, Caroline Vic. Dans ce journal encore, Patrick Balkany ira-t-il en prison ? Réponse dans un peu plus d'une demi-heure. Google paye 1 milliard au fisc français pour fraude fiscale. Qu'y a-t-il derrière cette somme qui semble énorme ? Nous en parlons avec notre invité. Le rendez-vous sport du jour, dans une heure pile, France-Argentine, demi-finale du mondial de basket. Y a-t-il un risque de décompression après l'exploit face aux USA avant-hier ? 13h30, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui Mathieu ?
Je reçois le biologiste Gilles Boeuf, spécialiste de la biodiversité marine et continentale. Avec lui, on va parler de la 6e grande extinction de masse que nous sommes en train de vivre sur Terre et en mer. Toutes vos questions à Gilles Boeuf dès maintenant.
01 45 24 7000. À tout à l'heure Mathieu. Avant cela, l'actualité de la musique. La mort de Philippe Pascal, le chanteur de Marquis de Sade, groupe important dans l'histoire du rock français. Et puis cette question qui torture des millions de personnes. Pourquoi les Beatles se sont-ils séparés ? Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Notre correspondant à Londres, question relancée dans la presse britannique.
Absolument, révélation inédite si vous pensez que le groupe a éclaté à cause de John Lennon, si vous pensez même que c'est de la faute de Yoko Ono, vous avez tout faux.
A tout à l'heure Antoine Gignot, le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
L'épreuve de force a commencé. Première mobilisation massive contre la réforme des retraites aujourd'hui. Avant, les professions libérales lundi, EDF jeudi prochain, les adhérents de Force ouvrière, puis de la CGT après le 20 septembre, la RATP ce vendredi. Appel à la grève très suivi, entre 60 et 98% des employés selon les secteurs, dit la CFE-CGC, le syndicat de cadres. Forte mobilisation y compris dans l'encadrement. 10 lignes de métro fermées à Paris, très peu de RER, pas beaucoup de bus. Et la scène du jour, le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, au contact des manifestants rassemblés devant le siège de la RATP, quartier Bercy-Gare de Lyon.
J'ai rappelé les grands éléments de la réforme, le pourquoi on doit faire une réforme des retraites. Et ensuite, j'aurais dit qu'on allait commencer à discuter très rapidement parce que l'objet, c'est bien quand même de prendre en compte les contraintes du secteur et de construire ensemble cette réforme qui est une réforme nécessaire. Ils sont inquiets, moi j'essaie de faire baisser le niveau d'anxiété et ils sont ouverts au dialogue et nous aussi. Donc ça devrait bien se passer. La crainte est mauvaise conseillère en politique, ce qu'il faut c'est faire. La confiance ne se décrète pas, ça se construit. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, d'abord, on baisse le niveau de tension, on dit que ce qui est écrit dans les tracts, ce n'est pas ce qui est le projet du gouvernement. Et ensuite, on discute, on construit ensemble.
Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Chef du service économique de France Inter. Alors Fabien, le projet de réforme, c'est donc, on le rappelle, un système de retraite unique, à points, fin des régimes spéciaux et notamment celui de la RATP. Alors en quoi consiste ce régime spécial à la RATP ?
Alors la principale particularité, c'est l'âge à partir duquel les agents RATP peuvent partir en retraite. Dès 50 à 52 ans pour les agents d'exploitation comme les conducteurs, 55 à 57 ans pour les personnels de maintenance et 60 à 62 ans pour les agents dits sédentaires, les postes administratifs, qui sont au final les plus nombreux. Ça, c'est pour l'âge. Ensuite, il y a le niveau des pensions. Oui. Là, le régime est moins spécial, entre guillemets, car il est aligné sur celui des fonctionnaires. On prend en compte dans le calcul les 6 derniers mois de salaire. Pour être affilié au régime spécial de la RATP, il faut y avoir été recruté jeune, entre 18 et 35 ans. Le niveau des cotisations rapporté au salaire brut est, lui, légèrement supérieur en pourcentage par rapport au régime général.
Depuis hier, Fabien, le gouvernement fait un parallèle entre les personnels de la RATP et ceux des transports en commun en région. Sous-entendu, pas de raison de favoriser les Parisiens par rapport aux provinciaux. Est-ce que l'argument tient ?
À chacun de juger, si privilège il y a, c'est un héritage de l'histoire. La RATP a 71 ans. Elle a conçu son propre modèle social sans attendre la rédaction d'une convention collective des transports urbains, celle sur laquelle sont alignées les autres villes de France. Il y a un métro à Paris, ce qui n'est pas le cas partout, ce qui est source de pénibilité particulière du fait de ne jamais voir la lumière du jour, par exemple. Et puis, il y a aussi une spécificité parisienne reconnue au-delà des syndicats pour les bus, cette fois, une circulation difficile dans Paris, plus d'accidents qu'ailleurs, du stress et beaucoup, plus qu'ailleurs de voyageurs à transporter.
Fabien, dernière précision, au-delà du malaise lié aux retraites, à la RATP, il y a un malaise lié aux perspectives d'ouverture à la concurrence.
Oui, et les premiers à y passer, justement, ce seront les conducteurs de bus, ouverture à la concurrence en 2024. Les trams suivront en 2029, le métro et le RER en 2039. On a encore le temps. Ce qui terrifie les agents RATP, c'est de devoir quitter l'entreprise si celle-ci perdait des marchés, des lignes à exploiter. Ils sont trop nombreux pour pouvoir être transférés en interne sur des lignes de métro ou de RER. Ils devront donc partir à la concurrence, mais en conservant un certain nombre de droits, ça c'est acté. Accès au centre de santé RATP, sujet très sensible en interne, maintien de la rémunération de l'ancienneté notamment, et bénéfice des activités du CE pendant un an. Tout est prévu socialement, mais c'est bien la fin d'une RATP intégrée avec tous les métiers dans une même maison qui se profile à l'horizon et qui inquiète de nombreux salariés.
Et donc cette grève aujourd'hui massivement suivie, comment s'organisent les Parisiens, pour qui, et les Franciliens même, pour qui la notion de vendredi 13 prend toute sa signification. Alors c'est le moment du déjeuner, hein, entre deux moments compliqués. Aller au travail ce matin, y revenir tout à l'heure. Reportage de Delphine Evenou dans le quartier de la Gare du Nord.
C'est l'heure de la pause pour Morgane, vendeuse en boulangerie. Sa journée est déjà bien entamée. Elle a commencé à 5h30 et elle ne s'est pas posé de questions en se levant.
J'ai directement pris un VTC. Je ne me suis pas ennuyée, on va dire. J'ai mis un peu moins de temps. J'ai mis 20 minutes au lieu de 30 minutes. Donc voilà, j'ai gagné un peu de temps, mais j'ai perdu un peu d'argent.
Quelques mètres plus loin, les multiples espaces de coworking sont plus remplis que d'habitude. Pierre, ingénieur, passe ses coups de fil sur le trottoir.
Ouais, mon bureau est à peu près à 3/4 d'heure de chez moi. J'ai pas de moyen d'y aller parce que c'est sur les lignes qui sont complètement fermées aujourd'hui. Moi, je préfère quand même aller au bureau, mais voilà, il n'y a pas de règle. Donc, quand c'est nécessaire que ça se présente, ça fait un petit peu de diversité dans le rythme. Ce qui est bien, il faut prendre de bon côté des choses en fait.
Mais pour certaines professions, impossible d'opter pour le travail à distance. C'est le cas des personnels de ménage très nombreux sur les quais des rares RER ce matin. C'est le cas aussi de Dickenet, il est cuisinier.
Aujourd'hui, j'ai fait 45 minutes, le double en fait. Je suis venu à 20 minutes de retard quand même. Et ça pardonne pas des fois les patrons.
Bien moins stressé, Rémi, vendeur, la philosophie de son plan de transport aujourd'hui, un coup d'œil à l'appli et de la détente.
Je suis pas très stressé par les grèves, je prends ça à la cool. Mon trajet, donc Pasteur, pour aller jusque dans le 9e rue Lafayette, ça s'est très bien passé. Un bus et un RER, tout de suite, et le RER était quasi vide.
Pour ce soir, même méthode, on verra bien. Pour les travailleurs qui habitent Paris, c'est évidemment plus simple que pour ceux qui sont en grande banlieue.
Et à propos de ce débat sur la réforme des retraites, le haut commissaire en charge de ce sujet, Jean-Paul Delevoye, était ce matin l'invité de France Inter. Vous pouvez évidemment réécouter l'entretien sur franceinter.fr. Dans quelques minutes, on saura si Patrick Balkany dormira ce soir en prison. Ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. Le tribunal correctionnel de Paris doit rendre en tout début d'après-midi sa décision après le procès pour fraude fiscale. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Charlotte, vous êtes sur place, il y a du bruit derrière vous. Vous êtes sur place pour France Inter avec Nicolas Mathias. Journée particulière pour le maire de Levallois et il a des soutiens sur place, hein.
Oui, en tout cas, beaucoup de Levalloisiens, pas tous favorables d'ailleurs à Patrick Balkany. Claude est le premier de la file d'attente, arrivé à 10h30 ce matin. Il estime que la sanction doit tomber pour Patrick Balkany, qu'il qualifie de bandit de grand chemin. Mêmes échos du côté de Jean-Pierre, qui a suivi tout le procès, ou encore Patrick, un autre Levalloisien très au fait de l'affaire. Chantal, elle, vient pour la première fois au tribunal, en soutien, elle, à son maire, dont elle vient, par contre, de découvrir ce qu'il risque vraiment cet après-midi.
Et on sent derrière vous l'ambiance des grands jours. Le parquet a requis 4 ans de prison avec incarcération immédiate et 10 ans d'inéligibilité. L'enjeu des minutes à venir, Charlotte, Patrick Balkany risque-t-il de dormir dès ce soir en prison ? Risque-t-il de perdre dès aujourd'hui son écharpe de maire ?
Oui, voilà, c'est une des possibilités car les procureurs financiers ont requis, vous l'avez dit, une peine de 4 ans de prison ferme et le mandat de dépôt à l'audience, qui signifie incarcération immédiate. Si le tribunal en décide ainsi, d'ailleurs, Patrick Balkany s'y est préparé, selon son entourage, et a pris ses dispositions en cas de départ en prison dans les prochaines heures. En revanche, si le mandat de dépôt n'est pas prononcé et que l'hypothèse très probable que Patrick Balkany fasse appel de sa condamnation, alors la perspective de la détention s'éloigne, au moins à moyen terme. Enfin, l'autre enjeu, vous l'avez dit, c'est son mandat de maire, qu'il pourrait perdre dès aujourd'hui. En cas de condamnation à une peine d'inéligibilité, quelle qu'elle soit, assortie d'une exécution provisoire, sachant donc que 10 ans d'inéligibilité ont ainsi été réclamés par le parquet.
Merci Charlotte Piret, en direct du Palais de Justice de Paris avec Nicolas Mathias.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
Et l'Argentine s'enfonce dans la crise économique. Une seule donnée, inflation de 30% depuis le début de l'année. Hier soir, les députés ont voté le doublement des crédits pour ceux qui ont faim. Depuis mercredi, des membres d'associations caritatives, des milliers de personnes campent autour du Congrès et appellent à l'aide à Buenos Aires. Reportage pour France Inter, Caroline Vic.
En plein centre-ville et au pied du ministère du Développement Social, des feux de camp, des casseroles fumantes, des dizaines de tentes, de matelas et des centaines de personnes emmitouflées dans des couvertures. Parmi elles, Hector, 25 ans, venu pour exprimer sa colère et son désespoir.
On essaye de lutter, on a juste besoin de travail ici en Argentine, c'est tout. On crève de faim. Si on n'a pas de travail, on ne peut pas manger, mais toutes les usines ferment. Aujourd'hui, je dois penser à payer la bonbonne de gaz, demain je dois mettre de côté pour manger. C'est désespérant.
Les organisations sociales réclament depuis des mois plus de moyens pour les cantines scolaires et les soupes populaires notamment. Marta, de l'association Barrios de Pie.
Dans les soupes populaires, on est passé de 30 à 70 personnes, des enfants avec leurs parents, des personnes âgées. On voit bien que certains enfants ne mangent qu'une fois par jour. Et souvent, on doit mettre de l'argent nous-mêmes pour acheter des légumes et un peu de viande. C'est pour ça qu'on est là avec mes camarades. C'est la seule manière de se faire entendre.
Une mobilisation qui a abouti à l'écriture d'un projet de loi décrétant l'urgence alimentaire jusqu'en 2022 et prévoyant notamment une augmentation de 50% du budget des politiques publiques d'alimentation et de nutrition. Un texte approuvé hier au Parlement et attendu au Sénat dès la semaine prochaine.
Et on estime qu'en Argentine, la pauvreté touche un tiers de la population. L'ONU place le pays à côté du Venezuela et du Guatemala parmi les pays où la faim a le plus progressé l'année dernière. Dans moins de deux mois, élection présidentielle en Argentine. Et si le ciel leur tombait à nouveau sur la tête? Une nouvelle tempête menace les Bahamas aujourd'hui ou demain. Le Centre national des ouragans en dira certainement plus dans les heures à venir. Combien de morts la tempête Dorian a-t-elle provoqué? Le bilan officiel reste de 50 morts, 1300 disparus et ces témoignages recueillis par nos envoyés spéciaux Thibaut Cavaillès et Gilles Gallinaro, Thibaut Lefebvre et Gilles Gallinaro, Thibaut sur l'île d'Abaco, chacun a un mort, proche ou disparu, ici une proche dont on est sans nouvelles.
Elle s'appelle Jenny, c'est une amie de longue date de Towell, et comme ce pêcheur d'Abaco, elle a une cinquantaine d'années, elle a toujours vécu sur l'île, mais depuis 10 jours, Jenny est introuvable.
Je ne sais pas où elle est. La police trouve des corps, mais ils ne savent pas à qui ils sont, car ils peuvent être abîmés. Il peut y avoir des corps partout, dans la mer ou dans la forêt. Il y a aussi de nombreuses personnes qui ont été évacuées. Quand vous perdez votre maison, vous pouvez partir, juste comme ça. Vous sautez dans l'avion, vous choisissez une destination. Certaines personnes ont disparu juste comme ça.
Les quartiers les plus touchés d'Abaco sont les plus pauvres, peuplés essentiellement d'immigrants haïtiens, pour certains sans papier. Julie en connaît 4, morts ou disparus, et elle est très remontée contre son gouvernement.
Je pense que les Français ou n'importe qui ne vit pas aux Bahamas se serait précipité dans les abris si le gouvernement l'avait demandé. Ici, les gens ont attendu la dernière minute parce qu'ils imaginaient que les services de l'immigration allaient les interpeller. C'est ce qu'ont cru beaucoup de personnes parce que la plupart des morts sont haïtiens. Et pour moi, c'est la faute du gouvernement.
Et pour répondre au début de polémique et inciter les haïtiens sans papier à se manifester, le gouvernement bahaméen a décidé de suspendre momentanément les procédures d'expulsion.
Et sauf si une nouvelle tempête l'en empêche, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, doit se rendre aujourd'hui et demain aux Bahamas en signe de solidarité. Antonio Guterres qui fait un lien entre les événements climatiques extrêmes, tempête d'Orient, inondation au Mozambique, désertification du Sahel, incendie en Amazonie, fonte de glace en Arctique, destruction des coraux. Le changement climatique est plus rapide que prévu, dit-il. Il faut des mesures plus énergiques contre le phénomène. Le reportage dans les Bahamas, c'était donc signé Thibaut Lefebvre et Gilles Gallinaro. L'actualité internationale en bref, 100e jour pour le mouvement pro-démocratie à Hong Kong. Les manifestants appellent à former une chaîne humaine à la mi-journée. En Algérie, comme tous les vendredis depuis plus de 6 mois, jour de manifestation contre le régime. Et au Maghreb, l'un des grands rendez-vous du week-end, c'est la présidentielle en Tunisie, berceau de la révolution arabe. L'issue en est totalement incertaine. L'actualité économique à présent, et ce chiffre, 1 milliard d'euros d'amende versée au fisc français par Google pour fraude fiscale. Nous en parlons avec l'invité de ce journal. Bonjour Éric Vernier.
Bonjour.
Chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Question idiote, 1 milliard, ça semble énorme, c'est le cas, c'est une grosse somme ou pas?
Alors c'est une grosse somme, mais c'est peu par rapport à ce que Google devrait payer. D'ailleurs, je rappelle que la France réclamait au départ 1,6 milliard. Et ça a pris pas mal de temps, et donc on imagine bien qu'entre-temps, il y a eu d'autres dégagements de chiffres d'affaires qui amèneraient aussi à devoir des impôts. Et donc 1 milliard, c'est beaucoup, mais c'est peu par rapport à ce qu'on devrait demander.
Autrement dit, Google y gagne encore.
Google y gagne encore. Alors il gagne de moins en moins puisqu'il paye, et pas seulement en France, mais effectivement Google y gagne par rapport à ce que cette entreprise devrait verser, et surtout si on y ajoute toutes les autres entreprises du type de Google.
Est-ce qu'on en tire la conclusion que Google va changer d'attitude et payer, disons, la juste somme de ce qu'il doit en impôts à la France à l'avenir?
Non, je ne crois pas. Je pense qu'ils vont encore négocier. D'ailleurs, même si cette somme, pour le moment, doit être payée, nous verrons si elle est effectivement payée.
Oui.
Et c'est la porte ouverte, justement, aux négociations futures. Donc, on sera au cas par cas. Et pour le moment, on n'est évidemment pas sur un paiement qui serait régulier et qui répondrait à ce qui est dû réellement.
Cela dit, la pression internationale, Éric Vernier, monte sur Google et les GAFA pour aller vers un système où ils paieraient plus justement leurs impôts, me semble-t-il.
Oui, alors c'est un petit peu les dernières négociations qui ont eu lieu, mais en fait c'était déjà prévu même avant que ce soit officiel. C'est que l'on voyait les États-Unis qui commençaient à vouloir reprendre la main sur justement l'excitation notamment des Européens.
Mmh.
Et je crois que ces négociations sont plutôt une reprise en main par les États-Unis de cette affaire. Et normalement, ça ne devrait pas aller forcément dans le bon sens pour les Européens.
Et il y a toujours une différence d'approche importante entre États-Unis et Europe sur ce sujet ?
Oui, d'abord parce que les entreprises sont américaines,
oui.
Donc les intérêts ne sont pas tout à fait les mêmes. Les États-Unis ne voient pas d'inconvénient à ce que leurs entreprises ne payent pas d'impôts en Europe.
Mm-hmm.
Ça les rend d'ailleurs plus compétitives par rapport à nos propres entreprises. Donc il y a effectivement une vision qui est totalement différente. Et les États-Unis, d'ailleurs, ont toujours voulu imposer leur vision en ce qui les concerne, mais surtout n'ont jamais voulu de la réciproque. Et ça, on le voit justement en termes de fraude fiscale, de paradis fiscaux, de déclaration automatique des comptes. On a toujours les États-Unis qui jouent cavalier seul contre les autres.
Éric Vernier, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il y a une méthode plus efficace que d'autres pour ramener ces grandes entreprises du net à payer leurs impôts ?
Non, c'est très compliqué. On réfléchit justement sur des méthodes. Je crois qu'il faut vraiment refondre totalement la vision de l'impôt, y compris dans notre pays, mais évidemment dans le monde entier, puisqu'on est avec une imposition qui est nationale face à des multinationales extrêmement puissantes et qui finalement travaillent sur un territoire qui n'est même pas tangible. Hein. Nous sommes sur les entreprises du net.
1 milliard d'euros, donc première étape, mais toute première étape, il y a encore beaucoup de boulot. Merci Éric Vernier d'avoir accepté de prendre quelques minutes pour répondre aux questions de France Inter. Vous êtes chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Les Français ne sont pas égaux face au cancer, les risques de tomber malade et la prise en charge. C'est un constat régulièrement dressé. Chacun en est conscient. La preuve, ce sondage via Voice pour l'Institut Curie. 7 Français sur 10 estiment qu'il existe bel et bien des inégalités face au cancer. Véronique Julia.
Les Français le ressentent et les experts le reconnaissent. L'inégalité face au cancer existe à toutes les étapes de la maladie. Prévention, dépistage, prise en charge. Les revenus, l'endroit où l'on habite, le niveau d'information dont on dispose. Tout ça pèse lourd et la moitié des personnes interrogées s'en disent convaincues. Le milieu socio-économique est déterminant. Confirmation avec Thierry Philippe, le président du directoire de l'Institut Curie.
On lance actuellement un dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Il existe aujourd'hui dans certains quartiers des femmes qui n'ont même pas un frottis dans leur vie sexuelle.
Gommer ces inégalités, c'est d'abord travailler sur la prévention. Le message sur le tabac et l'alcool semble être passé. Celui sur les avantages d'une bonne alimentation est moins compris. Il faut travailler aussi sur l'uniformité de l'accès aux soins. Tout le monde n'habite pas près d'un centre anti-cancer réputé, mais de plus en plus, les établissements travaillent en réseau, ce qui conduit des petits hôpitaux à soigner leurs patients en étroite collaboration avec des centres spécialisés.
Surtout, ce qu'il faut demander quand on est dans un hôpital qui n'est pas forcément hyper spécialisé en cancérologie, c'est est-ce que vous faites partie d'un réseau ? Ce réseau de soins, il va permettre que quel que soit l'endroit où le malade frappe à la porte, il n'aura pas de perte de chance.
Grâce à ces réseaux, les Français ont théoriquement tous accès aux traitements les plus innovants et sans avoir à les financer de leur poche. Là encore, c'est une information méconnue puisque 8 Français sur 10 pensent que ces traitements ne sont pas intégralement pris en charge.
Deux informations de dernière minute. Au moins 10 personnes périssent dans l'incendie d'un hôpital à Rio de Janeiro, au Brésil. Scène de chaos, nous dit l'agence France Presse. Et puis à propos du Brexit, ce rendez-vous lundi, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, doit rencontrer le président sortant de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, à Luxembourg. Au rayon sport, c'est le rendez-vous du jour. Dans moins d'une heure, 14h, la France face à l'Argentine en demi-finale du championnat du monde de basket. Les Bleus ont-ils digéré l'exploit de leur victoire face aux États-Unis avant-hier ? L'Argentine est une équipe moins prestigieuse que les USA, mais très difficile à manœuvrer, selon l'entraîneur français Vincent Collet.
On va jouer contre une équipe qui est pleine de vices, de malice, qui a l'expérience de ces rendez-vous-là. Et donc les problèmes qui vont nous être posés vont être totalement différents, bien plus difficiles à résoudre. Vous avez raison de penser, est-ce qu'on va avoir rebondi ? Je crois que oui. Je crois que ce groupe a bien compris qu'il ne fallait pas s'endormir. Mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir qu'on soit très bon. Voilà, ne croyez pas qu'on va se présenter et que ça va... Oh là là, pas du tout. C'est une demi-finale mondiale qui appartient aux deux équipes. Les deux équipes ont les mêmes chances de pouvoir l'emporter. Et pour nous, surtout, ce qui est important, c'est de mesurer qu'une fois encore, c'est un rapport de force qu'il faut qu'on soit capable de résoudre la problématique qui va nous être posée. Affaiblir leurs points forts, ils en ont. Ils en ont de saisissants. Et puis surtout, imposer aussi nos caractéristiques en s'adaptant à ce qu'ils vont nous proposer. C'est comme dans tous ces matchs.
Propos recueillis par Dominique André, Argentine-France de basket, demi-finale du mondial à 14h. Le vainqueur jouera dimanche en finale contre l'Espagne qui a battu ce matin l'Australie 95-88 après deux prolongations. Vous avez peut-être un jour songé à tout plaquer pour devenir libraire. Métier qui a du sens, qui donne du plaisir, mais métier ô combien difficile. J'ai testé pour vous chaque vendredi dans ce journal de 13h. Un de nos reporters donne de sa personne. Bonjour Adrien Serrier.
Bonjour Bruno.
Eh bien, vous avez testé être libraire en période de rentrée littéraire. Qu'est-ce qu'il y a à faire ?
Eh bien, première chose, sélectionner les livres qu'on a envie de proposer à ses lecteurs. Ça prend à peu près tout l'été, même une partie du printemps. Ensuite, évidemment, le rangement dans la librairie des Abbesses à Paris où je me suis rendu. C'est un tiers du stock qui a été renouvelé. On peut dire autour de 6000 livres. Imaginez le nombre de cartons à déballer. Et une fois que tout est en rayon, comme maintenant à la mi-septembre, il reste encore des petits ajustements à faire, comme trouver dans un livre la bonne phrase à affiner. Affiché dans la vitrine.
Alors vous êtes mis au boulot, on vous retrouve dans cette librairie du quartier des Abbesses avec Marie-Rose, la libraire.
Montez l'échelle, alors trouvez-moi Bacon, là il y a un entretien chez Flammarion, là il y a encore un autre livre d'entretien. Dans les écrits sur l'art, vous êtes dans le rayon écrits sur l'art, donc vous allez voir sur l'étagère, 1, 2, 3, 4, vous avez la
première. Je grimpe. Déjà l'échelle est stable, c'est une bonne nouvelle. Alors, Francis Bacon, entretien, c'est ça qu'on cherche. Ah, du premier coup, magnifique.
Bien vu. Bravo.
Voilà.
Alors, on met toujours dans les vitrines une phrase. Il faut qu'on comprenne en deux mots, en quatre mots, en une petite phrase, ce qu'est Bacon.
J'ai peut-être trouvé autre chose qui est pas mal, qui résume quand même pas mal l'ambiance Bacon. La mort est comme l'ombre de la vie. Quand on est mort, mais tant qu'on est en vie, l'idée de la mort vous poursuit.
C'est pas mal, ça.
Quand même très...
J'ai peur pour ma
vie. Alors, c'est pas très engageant, d'accord.
Vous voulez que les gens repartent direct. Déjà, les librairies sont mortes, maintenant elles nous mettent sur la mort, mais qu'elle meurt si elle est poursuivie par cette idée. Nous, on a envie de vivre.
Je vais trouver de la vie.
Vous avez failli tomber de l'échelle, il fallait porter les cartons, et puis il faut trouver la bonne phrase.
Je n'ai pas trouvé cette bonne phrase, pourtant j'ai lu deux livres d'entretien de Francis Bacon. C'est Marie-Rose Garnieri, la libraire, qui a fini par dénicher la bonne phrase sur Internet.
Et vous lui avez demandé ce que représentait pour une libraire ce moment de la rentrée littéraire.
Il y a quelque chose qui fait que c'est comme une source qui revit. Et je ne sais pas comment vous dire, je ne suis pas lassée de ces rentrées littéraires. Parce qu'il y a quand même des livres qui arrivent qu'on a envie de connaître, qu'on a envie de lire. On a envie de rencontrer des gens nouveaux, des auteurs nouveaux. Donc c'est quand même un moment aigu. Si on a le goût de la lecture, si on a de l'appétence pour la lecture, on renouvelle complètement. C'est comme une naissance, quoi. C'est une renaissance à chaque fois.
Derrière naissance, il y a aussi le travail, la douleur.
Il y a de la douleur aussi parce que ça demande un gros, gros travail de préparation pendant 2 mois et demi. Et puis on a beaucoup de trac. Parce qu'on se dit, est-ce que je vais réussir à faire ma table? Est-ce que je vais trouver des bons livres? Est-ce que je vais réussir à convaincre des lecteurs? Et peut-être qu'on s'est trompé.
Vie ma vie de libraire. Merci Adrien Serrière d'avoir grimpé à l'échelle et pas que. Et à propos de littérature, France Inter est partenaire ce week-end du Livre sur la Place à Nancy. Si vous êtes dans le coin, 20h-22h ce soir, enregistrement du Masque et la Plume du cher Jérôme Garcin. Deux histoires d'adieu en musique pour finir ce journal. Adieu à Philippe Pascal, le chanteur du groupe Marquis de Sade, groupe important dans l'histoire du rock français. C'était à Rennes, début des années 80, fin des années 70. Un certain Étienne Dao était dans le coin. Parmi ses amis, ses sources d'inspiration, il y avait Marquis de Sade et Philippe Pascal. Jean-Louis Brossard, le fondateur du Festival Rennais des Transmusicales, se souvient de ce personnage, Philippe Pascal.
C'est vraiment le début du rock rennais en 79, c'est le début des trans. On est très très liés depuis 79 quelque part. Il se passait enfin quelque chose à Rennes, on avait un groupe fort avec un chanteur vraiment extraordinaire. Quoi. C'était aussi le début du punk, où même si on n'était pas des super musiciens, on avait de l'énergie, on avait la jeunesse et on avait envie de faire des choses. Quoi. Sur scène, bon, donc il y avait le groupe guitare basse batterie, puis des fois avec Papa Fossax, etc. Et puis il y avait Philippe qui avait une gestuelle absolument incroyable. Voilà, il y avait peu de gens dans le monde de la musique qui pouvaient être sur une scène comme lui l'était. Il y avait Ian Curtis de Joy Division, il y avait Iggy Pop aux États-Unis, voilà, Ian Curtis à Manchester. Enfin, des gens, dès qu'ils étaient sur une scène, c'était quelque chose qu'on a déjà vu. Puis voilà, c'est quelqu'un que j'aimais bien, qui adorait rire. C'est... Parce qu'on peut toujours penser que Philippe était quelqu'un de très sombre, mais c'est aussi quelqu'un qui adorait rigoler. Je le faisais rire.
Voilà, et on termine sur ce sourire de Jean-Louis Brossard à propos du décès de Philippe Pascal, le chanteur de Marquis de Sade. D'autres adieux, une histoire de séparation. Plus précisément, nous passons de Rennes à Londres. Vous devriez y reconnaître. Joan was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oui, c'est signé McCartney. Maxwell Silver Hammer, chanson écrite par Paul McCartney sur Abbey Road, dernier album mis en boîte par les Beatles. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Londres, un nouvel enregistrement inédit de conversation entre les Beatles est publié. Et Antoine, voilà relancer la question, pourquoi se sont-ils séparés?
Absolument, oui. L'histoire officielle, enfin celle qu'on raconte depuis plus de 50 ans, c'est une succession de désaccords, notamment à cause de l'arrivée de Yoko Ono, la compagne de John Lennon, qui passe trop de temps dans les studios d'enregistrement. La décision de tout arrêter arrive au moment de la sortie de l'album Abbey Road. Eh bien, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. La preuve, dans cette cassette audio que vient d'exhumer l'historien des Beatles, Mark Levinson, nous sommes le 8 septembre 69, à Londres, dans les locaux de la maison de disques des Beatles. Ringo Starr est à l'hôpital et le groupe enregistre ses échanges pour qu'il puisse entendre ce qui se dit. Le ton est détendu. Premier choc, les Beatles parlent de leur prochain disque. John Lennon propose d'ailleurs de mélanger quatre chansons à lui avec quatre composées par McCartney, quatre de George Harrison et deux de Ringo. Et là, deuxième choc, on entend Paul McCartney expliquer que jusqu'à très récemment, il trouvait les compositions de George franchement pas terribles. Réponse de l'intéressé, c'est une question de goût. S'ensuivent des discussions sur la qualité des chansons des uns et des autres. Début donc des critiques qui vont aboutir quelques mois plus tard à la séparation.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres. Et là, c'est un moment délicat parce qu'il va falloir passer des Beatles au jingle météo. Comment on va faire, mystère?
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Pas mal la technique, Elodie Calac.
Près de la Manche et au nord de la Seine, beaucoup de nuages, parfois un peu de bruine, quelques rayons de soleil trop timides. Des éclaircies plus belles se dessinent du sud de la Bretagne vers la région parisienne, la Champagne, le nord de la Lorraine, sur le Boulonnais également. Partout ailleurs, le soleil est bien installé. Les températures en profitent pour monter. 20 degrés à Caen, 21 à Lille, 25 à Paris, à Nancy, 29 degrés à Nevers, Lyon et Marseille, 30 à La Rochelle, à Bastia, jusqu'à 32 degrés à Bordeaux, Montauban et Nîmes. Le week-end s'annonce estival avec beaucoup de soleil, un peu voilé sur le sud-ouest samedi avec un petit risque d'ondée. Ça tournera à l'orage sur les Pyrénées dimanche. Les températures poursuivront leur hausse, souvent 26 à 32 degrés samedi. Et pour dimanche, une moyenne de 29 degrés au nord et de 30 au sud.
Et à la technique, cette semaine, pour le journal de 13h, il y avait Henri Bérec et Ronan Mahé. À la rédaction, en chef Anaïs Feuga et Lionel Thompson. Merci également à Swad Bellani, Hélène Barbé et Benjamin Ducy.